Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le 295e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Dans quelques temps, fin janvier a priori, nous atteindrons le chiffre des 300 émissions. En attendant de passer ce cap symbolique, nous devons toujours faire face à la profusion d'événements musicaux de cette fin d'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la semaine à venir est dans la droite ligne des précédentes, avec encore plusieurs concerts de haut niveau au programme. Pour vous les annoncer et vous les présenter, j'ai convié une nouvelle fois Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puis, selon la bonne habitude de cette émission, nous accueillons aussi un invité d'honneur, le chef de chœur Marc Hopstadt, fondateur et directeur artistique de la Maîtrise de Toulouse, qui vient de faire paraître le très beau CD Folk Songs Tour du Monde sous le label Anima Nostra et qui donne son traditionnel concert de Noël ce vendredi 20 décembre à 20h à la Basilique Saint-Sernin. Nous allons en parler avec Marc en seconde partie de ce numéro, mais avant cela, nous allons revenir avec Serge sur la foisonnante actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux, heureux de vous recevoir dans le grand studio de Radio Présence. Le premier concert sur lequel nous allons revenir va nous amener à la Halle au Grain, où l'Orchestre National du Capitole s'est produit jeudi dernier sous la direction du chef israélien Omer Meir Velber et en accompagnant le flûtiste Emmanuel Pahu qui faisait son grand retour à Toulouse à cette occasion pour interpréter le concerto de Marc-André d'Albavi, Serge, mais il y avait d'autres œuvres au programme et même de nombreuses œuvres.
Absolument, il y avait des compositeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir associés puisqu'il y avait également Joseph Haydn et Ottorino Respighi. Et donc le chef qui est venu diriger l'Orchestre National du Capitole, Omer Meir Velber, il faut savoir que c'est un chef d'orchestre avec des fonctions incroyables puisqu'il est en même temps claveciniste, pianiste, accordéoniste, romancier et magicien. C'est assez impressionnant. Et donc, il est venu diriger tout d'abord deux symphonies de Haydn. Et en dirigeant l'orchestre du Capitole, il était au clavier du clavecin en même temps. Donc, il tournait le dos au public. Et donc, il a dirigé la symphonie numéro 26 d'abord, sous-titrée Lamentation. Alors, c'est en référence aux Lamentations de Jérémie, hein, qui ouvrait le concert avec ses trois mouvements très classiques. Hein. Cette symphonie-là est la dernière de Haydn à trois mouvements. Toutes les suivantes ayant quatre mouvements. Et donc, il a dirigé cela avec une vivacité, avec une gaieté incroyable, avec un adagio à la fois plein de douceur, très suave, avec un magnifique solo de hautbois, et puis avec un final qui enchaîne, avec un menuet, un trio, auquel là aussi il y a un solo, mais cette fois du violon, qui est brillamment exécuté par le premier violon de l'Orchestre du Capitole. Et donc c'était une conclusion un peu inattendue pour cette symphonie, parce qu'elle s'arrête comme suspendue, ce n'est pas un final traditionnel. Et puis ensuite, il a dirigé la 49e, en fa mineur, qui est sous-titrée La Passion, parce qu'elle a été créée au moment de La Passion dans l'année, donc, de Haydn, et avec une alternance dans cette symphonie entre des caractères méditatifs et tourmentés. Elle est à quatre mouvements, évidemment, avec un élan dramatique dans le final presto qui était vraiment impressionnant. Donc voilà les deux symphonies. Et entre ces deux symphonies, eh bien, nous avons eu droit à la création à Toulouse du concerto pour flûte de Marc-André d'Albavi, qui était présent d'ailleurs dans la salle, et qui alors là évoque d'autres horizons que les symphonies de Haydn, évidemment. Et cette partition, elle a été écrite par Marc-André d'Albavi pour notre flûtiste de la soirée, donc Emmanuel Pahut, qui y déploie une énergie et une science musicale, mais alors d'un niveau exceptionnel. Rappelons quand même qu'à l'âge de 22 ans, ce musicien franco-suisse, hein, faut le rappeler, a été nommé au poste prestigieux de première flûte de la Philharmonie de Berlin, tout de même qui n'est pas un petit orchestre de province. Et c'est un poste qu'il occupe toujours à ce jour. Et donc, il a joué ce concerto de Marc-André d'Albavi. Il faut préciser que le compositeur est né en 1961, qu'il a été quand même l'élève de Pierre Boulez et de Marius Constant, notamment, et qu'il est classé parmi les compositeurs d'écriture spectrale. Voilà comment on qualifie son style de composition. C'est vraiment une pièce impressionnante qui s'ouvre sur une véritable explosion orchestrale à laquelle répond la flûte par des traits d'une virtuosité qui paraît impossible à exécuter. Et pourtant, il fait ça avec une aisance. Bon, Emmanuel Pahut, là aussi, est un immense musicien. Et donc, pendant tout le concerto, qui se joue sans interruption, le flûtiste a une variété de jeux vraiment impressionnante, comme le Flatterzung, ou alors l'émission de sons harmoniques, vraiment complètement à l'aise dans les moments qui... Alors, des moments très contrastés tout au long de ce concerto, avec des moments de violence extrême, et puis des plages d'une douceur angélique, un peu en quelque sorte. Et alors, ce qui m'a impressionné, c'est la nature des échanges. C'est un échange constant entre la voix du flûtiste soliste et les voix multiples de l'orchestre. C'est vraiment une œuvre très intéressante et qui mérite d'être diffusée avec une coda inexorable et qui a provoqué l'ovation du public. Une œuvre quand même avec une écriture très contemporaine, mais qui a été très bien accueillie par le public. Et Emmanuel Pahut a offert ensuite un bis. Alors un bis qui a stupéfié tout le monde, puisqu'on a vu apparaître sur scène le flûtiste qui revient en compagnie du chef et lui-même équipé d'un accordéon. Et donc le chef a joué de l'accordéon avec le flûtiste, et ils ont joué quoi ? Ben un fameux tube d'Astor Piazzolla, Libertango, œuvre connue évidemment. Oui. Donc flûte et accordéon, ils ont joué ça avec une maestria impressionnante.
Il y a quelques années, Emmanuel Pahut avait enregistré un disque dédié entièrement à Piazzolla.
Oui, absolument, oui, oui, oui. Et donc là, bon, ça a été un intermède qui a eu un succès immense, évidemment, on peut l'imaginer. Ensuite, et pour terminer, le chef d'orchestre a dirigé une œuvre très rare du compositeur italien Ottorino Respighi, que l'on connaît surtout par sa trilogie romaine, hein, les Pins de Rome, les Fontaines de Rome, les Fêtes romaines. Mais là, c'était une œuvre intitulée Métamorphoséon, avec une orchestration très généreuse et qui a été écrite pour célébrer les 50 ans de l'orchestre de Boston. Alors, qui est écrite sous la forme de 12 variations sur un thème. Cette œuvre qui intègre, alors c'est ça qui est frappant, de multiples solos dans lesquels les musiciens doivent s'investir vraiment, et c'est assez coton, comme on pourrait dire. Et ils ont fait ça avec panache. Il y a un solo de violon, d'alto, de violoncelle, de cor, de clarinette, de basson, de flûte et de harpe, notamment. Et il y en a même d'autres plus courts. Donc c'était vraiment une belle découverte dont s'est manifestée la précision, la direction et le dynamisme de ce chef, alors qui, lorsqu'il est au clavier, eh bien, donne les départs avec les pieds, les mains, avec tout le corps, donc il s'investit complètement dans la direction de l'orchestre. C'était une belle soirée intéressante, vraiment intéressante.
Et nous allons pouvoir réécouter Emmanuel Pahut dans un extrait du concerto pour flûte de Marc-André d'Albavi que le flûtiste franco-suisse avait enregistré en 2008. Il s'agit du final. Thank you. le final du concerto pour flûte de Marc-André d'Albavy dans la version enregistrée par Emmanuel Pahut avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2008. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole a lieu jeudi 19 décembre à la Halle au Grain avec Tougan Sokiev à la direction. Nous allons vous le présenter en détail bien sûr tout à l'heure en seconde partie d'émission. Je voulais dire quelques mots sur le concert Noël et Occitan donné samedi par les Passions de Montauban à l'église Saint-Exupère à Toulouse. Un programme dédié à des airs célébrant Noël dans la langue occitane et ses différentes déclinaisons, puisqu'on y trouvait aussi bien des paroles en provençal, notamment écrites par Frédéric Mistral, que des chants du Béarn, une manière de voyager à travers les époques et l'espace, de la Renaissance au XXe siècle, histoire de rappeler que bien longtemps après l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, faisant du français la langue officielle du royaume, celui-ci a longtemps cohabité avec la langue d'oc, parlée encore dans une grande partie du sud de la France jusqu'au début du XXe siècle. J'ai indiqué que ce Noël occitan était proposé par les Passions de Montauban, mais en fait, c'est essentiellement leur fondateur et directeur artistique, Jean-Marc Andrieux, qui représentait l'orchestre et ce en tant que flûtiste à bec et chanteur. À ses côtés, on trouvait la chanteuse Muriel Badby-Castel, qui défend la culture occitane depuis toujours, au point que c'est elle qui annonce les stations en occitan dans le métro toulousain. Autre défenseur du patrimoine musical occitan, le chanteur et flûtiste Pascal Caumont était également présent. Alors je signale que Pascal Caumont, c'est Marc Opchat qui me l'a rappelé, et est actuellement le responsable du département musique traditionnelle au CRR de Toulouse. Et il y a succédé à Xavier Vidal, qui lui-même était présent à ce concert samedi à Saint-Exupère. Xavier Vidal avait fondé la classe des musiques traditionnelles au CRR de Toulouse. Lui est multi-instrumentiste, il joue du violon, des percussions et de la boudègue. Alors la boudègue, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la plus grosse des cornemuses occitanes et sa peau provient d'une chèvre entière. C'est un instrument très impressionnant. Enfin, dernier de la bande, Christopher Gibert à l'orgue positif et au chant. A noter que lors de ce concert, des pièces de Marc-Antoine Charpentier ont été interprétées, en français celle-ci bien sûr, dont une assez célèbre, Joseph est bien marié. Tout ce petit monde nous a offert un début de soirée fort agréable avec ce programme samedi, d'autant plus qu'une grande partie du public, contrairement à moi, parlait et comprenait l'occitan, ce qui lui a permis de reprendre les refrains de certains airs. Je propose d'écouter Les Passions dans une version d'un air de Noël occitan qu'ils avaient enregistré il y a une quinzaine d'années. Les paroles sont en provençal et ce chant a pour titre « Vautre que siats assemblats », c'est-à-dire « Vous qui êtes assemblés ».
Siamo venuti a Saubomen, contento gioiosamente. L'enfant che nero promesse, venato a salvare la vita, è nato di nome, di un ubierto tan pulito, che la planeta del giur, ve lo impronto salvo sur, che la planeta del giur, ve lo impronto salvo sur.
Per noi da che un guasso
Votre Kessi Assemblats, vous qui êtes assemblé, air de Noël Occitan, dans une version que les Passions Montauban avaient enregistrée il y a 15 ans, un chant pour illustrer le programme que Jean-Marc Andrieux et ses amis ont donné samedi à l'église Saint-Exupère de Toulouse, en toute fin d'un après-midi plutôt frisquet, et il a fallu ensuite vite attraper une rame de métro pour filer à la basilique Saint-Cernin afin d'assister au grand concert de Noël de la Schola Cantorum, sous la direction de notre invité de la semaine dernière, Jean Percy, le directeur artistique de cette structure musicale qui rassemble en fait quatre chœurs distincts, une maîtrise, un chœur d'hommes, un chœur grégorien et un grand chœur mixte. Nous avons pu tous les entendre samedi soir dans une basilique comble. Jean Percy a présenté au préalable le programme qui était scindé en deux parties, la première étant dédiée au chant Omanium Mysterium, dont nous a été proposé trois versions. Le grand chœur a d'abord chanté celle du compositeur basque espagnol contemporain Javier Busto, très belle et joliment interprétée. Le chœur d'homme a pris la suite sous la direction de Mathieu Duboc, en interprétant le Omanium Mysterium d'un autre compositeur contemporain, l'américain Morten Lauritsen. Cette partie s'est conclue avec le chœur grégorien, dirigé par Clarisse Chantelot, qui a chanté un autre Omanium Mysterium sur le ton cistercien, « Si iniquitates observaris, si tu retiens les fautes, qui subsistera ?» Puis deux pièces d'Hildegard von Bingen, « Au Igne Spiritus », au souffle de Dieu, et un Salve Regina, des pièces qu'on entend rarement, très peu connues du grand public, mais très belles, profondément mystiques. Et ce n'était pas terminé, puisqu'avant la messe de minuit de Charpentier, l'œuvre majeure de ce concert, nous avons eu droit à des Noëls traditionnels du même Charpentier, chantés par la maîtrise et le chœur d'homme de la Schola Cantorum, sous la direction de Cécile Capomaccio. Il s'agissait du « In Nativitatem Domini Canticum », et on a pu y entendre les chants à la venue de Noël, où s'en vont ces gais bergers, et de nouveau, Joseph est bien marié, comme on se retrouve. C'était très beau, notamment avec les voix des petits solistes de la maîtrise, qui ont fort bien assuré leur partie solo. La maîtrise était de nouveau mise à contribution, aux côtés du grand chœur, pour la messe de minuit charpentier qui clôturait le concert, chantée dans la prononciation gallicane, cher à Jean Percy qui a dirigé évidemment cette partie du concert. Cette soirée était aussi une première pour l'orchestre baroque de la Schola Cantorum qui faisait ses débuts en public ce soir-là. 8 musiciens ont accompagné les chanteurs. Il y avait 2 flûtes, un violon, un alto, un violoncelle, une viole de gambe, un dessus de viol et un orgue positif pour le continuo. Le Kyrie, le Gloria, le Credo, l'Offertoire, le Sanctus et l'Agnus Dei se sont ainsi succédés avec beaucoup de bonheur. Il faut que je cite aussi les chanteurs solistes de cette messe de minuit, Isabelle Brousset, Elsa Sirodo-Severstram, Léo Thierry, Timothée Bougon, Colline Bouton et Cléry Minko, dont les interventions sont toutes à saluer. Vraiment une très belle soirée samedi à Saint-Cernin pour la Schola Cantorum, une formation qu'il va falloir suivre de près dans les années à venir. Nous allons pouvoir écouter une nouvelle fois le Omanium Mysterium du compositeur américain Morten Lauritsen, interprété par la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin.
Thank you.
Omanium Mysterium, pièce de Morten Lauritsen, interprétée par la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Elle était au programme de leur concert de Noël samedi. Nous retournons maintenant à la Halle aux Grains, où le cycle des grands interprètes, très actif ces temps-ci, présentait un concert-spectacle ce lundi 16 décembre. Les quatre saisons de Vivaldi, interprétées par les musiciens du concert de la Loge, sous la direction du fondateur de l'ensemble, le violoniste Julien Chauvin, jusque-là à rien d'original, à ceci près tout de même qu'il y avait aussi des danseurs sur le plateau, Serge.
Mais oui, alors une association que l'on n'attendait pas, qui est peu traditionnel, puisque au concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin, qui est en même temps le violon solo, hein, pour les quatre saisons de Vivaldi, évidemment, le rôle du violon solo est important, mais il y avait également la compagnie chorégraphique qui s'appelle Kefig, ce qui signifie cage, en arabe et en allemand, qui est dirigée par Mourad Merzouki, et qui a été fondée, cette compagnie, en 1996. Alors, voir de la breakdance ou du hip-hop en même temps que de la musique de Vivaldi, on ne pouvait pas imaginer ce que ça allait donner. Eh bien, ce que ça a donné, c'est que ça marche parfaitement bien. Et c'était d'un dynamisme, d'une adéquation entre musique et mouvement, en quelque sorte, qui fonctionnait complètement, hein. Alors, c'était une proximité inattendue, mais qui a généré des échanges incroyables. Notamment, on avait l'impression que les danseurs hip-hop faisaient de la musique avec leur corps. Et que les musiciens, bah, ils ne se privaient pas de danser, effectivement, ils dansaient un peu, ils ne faisaient pas du hip-hop, évidemment, mais ils dansaient en compagnie du chorégraphe et des... Enfin, le chorégraphe ne dansait pas là, hein, donc ces danseurs, et ils se mélangeaient parfaitement, les danseurs et dans les musiciens avec leurs partitions. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Avec donc ces fameuses quatre saisons de Vivaldi, bah, évidemment on ne présente plus ça, c'est un hymne universel à la nature en quelque sorte.
Bah, sachant qu'il y a des poèmes derrière les
concertos. Ah oui, oui, il y a des poèmes, là on ne les a pas lus.
Non, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut inspirer aussi
exactement.
La chorégraphie.
Hein. Oui, oui. Ah non, la chorégraphie, elle était uniquement formelle sur des pas de breakdance, vraiment absolu, hein, donc c'était tout à fait impressionnant. Alors, il n'y avait pas que les quatre saisons, puisque de temps en temps, entre deux saisons, il y avait d'autres œuvres de Vivaldi. Ainsi, le concert s'est ouvert avec la Sinfonia de l'Opéra L'Olympiade de Vivaldi, bien entendu. Puis ensuite, il y a eu donc le Printemps, lumineux, magnifiquement joué, magnifiquement interprété par les musiciens. Et puis la sonate pour violoncelle en la mineur, également, tout était de Vivaldi, évidemment, avec un musicien, un violoncelle solo de l'ensemble qui s'appelle Jérôme Huil et qui est vraiment excellent. Ensuite, donc, on a eu l'été avec l'orage, le fameux orage. Et donc, il y avait en même temps une utilisation de la lumière magnifiquement faite, hein, et avec des éclairs qui ont zébré le ciel de la Halle aux Grains. Et puis ensuite, c'était un concerto en si mineur pour quatre violons, avec quatre des violons de l'ensemble, évidemment, avec en premier Julien Chauvin, bien sûr. Puis ensuite, après l'automne, eh bien, il y a eu une autre sinfonia, la sinfonia en sol majeur, Alla Rustica, une œuvre très courte, très brève, juste avant l'hiver, qui était à la fois fiévreux et intense. Et donc, de nouveau, à la fin, l'ensemble a rejoué la sinfonia de l'Olympiade, donc bouclé la boucle en quelque sorte, hein, donc, et ça a donné l'occasion à l'ensemble, aux danseurs et aux musiciens, de réaliser un final complètement fou, ahurissant, avec des danses dans tous les coins, y compris les musiciens qui se mêlaient aux danseurs. Alors ça a eu un succès fou, un succès incroyable de la Halle aux Grains, qui était pleine, absolument pleine, évidemment, les quatre saisons.
Oui, mais je pense que le fait qu'il y ait en plus cette
compagnie avec
une compagnie sur les quatre saisons, ça a dû encore
magnifique,
doper un peu l'enthousiasme et l'intérêt.
Ah oui, oui, oui. C'était vraiment un beau moment, très, très joyeux et très convivial entre des arts qui ne sont que très rarement réunis, il faut le dire.
Eh bien, nous allons reprendre un peu des quatre saisons dans la version enregistrée en 2023 par le concert de la Loge. C'est le célèbre troisième mouvement presto, l'orage de l'été. Thank you. le troisième mouvement presto de l'été, extrait des quatre saisons de Vivaldi, dans une version enregistrée par le Concert de la Loge l'an dernier. Voilà donc pour la première partie de cette émission, une courte virgule musicale, et nous retrouvons Serge et Marc Hofstadt pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et l'invité d'honneur de cette émission et donc de cet agenda, c'est Marc Hofstadt, le directeur artistique de la Maîtrise de Toulouse, qu'il a fondé en 2006, lorsqu'il était recruté par le conservatoire, par Marc Bleuze à l'époque, pour y créer et développer cet ensemble. La Maîtrise donne son traditionnel concert de Noël ce vendredi 20 décembre à 20h à la Basilique Saint-Sernin, accompagné au grand orgue par Michel et Yasuko Bouvard, un moment très attendu qui devrait faire encore salle comble parce que tous vos concerts sont toujours pris d'assaut par le public et puis ils le sont d'autant plus qu'ils sont gratuits et celui-ci l'est aussi, je le dis d'emblée. Nous allons présenter le programme de cette soirée avec vous Marc ainsi que le CD Folk Songs Tour du Monde, tout récemment paru sous le label Anima Nostra. Mais avant, un petit mot sur la Maîtrise, sur l'histoire de la Maîtrise. Que de chemin parcouru depuis 2006. Marc, il y a eu combien d'enregistrements en 18 ans ?
Là, le folk song qu'on vient de sortir, c'est notre huitième.
Huitième enregistrement. Il y a eu aussi un grand moment en 2017, c'est que vous avez été récompensé par le prix de la Fondation Liliane Bettencourt pour le chant choral. C'est une distinction, mais Serge, on en a déjà parlé. Hein.
Largement mérité, je dois dire.
Une distinction en France. Hein.
Ah oui, oui, qui a vraiment sanctionné la qualité de ce chœur magnifique. Avec des voix d'une fraîcheur incroyable, des prononciations très travaillées. Enfin bon, c'est un grand plaisir d'assister à tous les concerts de cette Maîtrise.
Alors Marc, expliquez-nous comment fonctionne la Maîtrise aujourd'hui, avec combien de chanteurs par pupitre. Il y a aussi des partenariats avec des écoles, des collèges, des lycées. Expliquez-nous un peu tout ça.
Oui, donc au sein de la Maîtrise, c'est des collégiens qui sont en classe à horaire aménagé. Donc en partenariat avec le Collège Michelet, qui a une annexe dans les bâtiments du conservatoire. Et donc nous avons environ 25 collégiens maîtrisiens. Et à cela s'ajoutent les lycéennes. Les lycéens, eux, sont plutôt en période de mue pendant ces années-là.
Ce qu'on appelle les muons.
Voilà, ce qu'on appelle les muons, ou certains appellent les mutants.
Oui aussi.
Et ensuite, nous avons des voix d'hommes qui sont parfois des anciens élèves de la Maîtrise, des anciens garçons, parfois des élèves qui sont à la fac en musicologie et avec quelques renforcements professionnels.
Oui,
parce et nous avons bien sûr avant la Maîtrise aussi les formations pré-maîtrisiennes, y compris les classes horaires aménagées en partenariat avec l'école de Rangueil. Donc ça, c'est des classes horaires aménagées chant choral.
Qui sont, je crois, chapeautées par Delphine Armand, entre autres.
Aussi, oui, tout à fait.
Alors, comment s'organise le travail et les répétitions ? Parce que pour arriver à la qualité dont on vient de parler, il faut beaucoup, beaucoup travailler.
Oui, mais pour les collégiens, c'est pendant le temps scolaire. Donc, 4 fois par semaine, ils ont cours avec moi de chant choral pour 1h15 chaque fois. Ils ont également des cours de technique vocale de 30 minutes par semaine, plus des cours de formation musicale avec les autres élèves instrumentistes des classes horaires aménagées, et aussi des cours d'instruments. Donc ils ont un programme de musique très complet. Et après, pareil, les lycéens, ils ont aussi plusieurs répétitions par semaine, les voix d'hommes aussi. Et après, tout se met ensemble pour préparer les concerts.
Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie que leurs enfants intègrent la Maîtrise, par exemple. Comment ça se passe ? Il faut être volontaire, de toute façon. Hein.
Bien sûr. Et déjà, il faut le préparer en avance. Donc surtout, le meilleur chemin pour le préparer, c'est en intégrant soit les classes horaires aménagées primaires en partenariat avec l'école de Rangueil, soit le cœur préparatoire au conservatoire, donc des formations pour les élèves primaires.
La Maîtrise aujourd'hui, c'est combien de concerts par an en moyenne ?
En moyenne, on est à peu près à 9-10 concerts par an. Un peu plus cette année. Là, on a fait, depuis octobre, on a fait 6 concerts.
Et vous vous produisez essentiellement à Toulouse ou aussi un petit peu plus loin ?
Principalement à Toulouse, bien sûr, et une partie des concerts à Toulouse, c'est dans la saison du conservatoire, et une partie, c'est en partenariat, par exemple, avec l'Orchestre du Capitole. Mais ailleurs aussi, donc là, cette année, on est allé en Espagne au mois d'octobre, on a fait un concert à Saragosse et un concert au Pays Basque. Plus tard dans l'année, on va chanter au Festival de musique sacrée à Perpignan. Voilà, donc aussi les festivals de la région. Voilà.
C'est une formation vraiment aujourd'hui d'envergure régionale et même internationale puisque vous allez jusqu'au Pays Basque espagnol et vous venez de faire paraître un nouveau CD tout récemment, j'en ai parlé il y a quelques minutes, il a pour titre Folk Songs Tour du Monde et il est paru sous le label Anima Nostra. Quelle pièce et quel compositeur trouve-t-on dessus ? C'est un peu le reflet du côté international de votre formation là.
Oui, alors contrairement à tous les 7 albums précédents, là c'est vraiment quelque chose de très différent. J'ai voulu vraiment faire un tour du monde de musique folklorique. Ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver le répertoire. Ça part de la France, on part partout en Europe, donc Pays Basque, ensuite en Angleterre, Écosse. Et après dans les Pays Baltes, où il y a une très forte tradition de
musique. Et beaucoup de compositeurs aussi.
Oui, tout à fait. Ensuite l'Europe de l'Est, Pologne, l'Ukraine. On part après au Moyen-Orient, Turquie, Afrique, après vers l'Asie. On descend en Australie, après on traverse la Pacifique, Brésil, on remonte en Amérique centrale, Amérique du Nord, avant de revenir. Donc c'est vraiment un tour du monde.
C'est un disque de globe-trotteur.
Oui.
Ah ben c'est incroyable. Et tout ça chanté avec les langues originales.
Oui, alors c'est ça où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de CD précédents qui ont fait ça. C'est vraiment 17 langues en total pour les 21 pièces. Donc ça a demandé un travail vraiment énorme de travail sur toutes ces prononciations. Mais on a fait tout en langue originale. Et ce qu'il faut dire aussi, donc, c'est qu'à la base, presque toutes ces pièces, ce sont des mélodies folkloriques ou des mélodies traditionnelles. Et après, c'est des arrangements pour chœur. Donc, chaque compositeur, chaque arrange a fait un travail vraiment différent. Mais à la base, c'est des mélodies folkloriques.
Comme tous les chefs de chœur, vous êtes attaché à la bonne prononciation. Lorsque vos chanteurs interprètent une œuvre, quelle qu'elle soit, vous avez travaillé avec qui là, pour des langues comme le lituanien, le polonais ou autre?
Alors, plein de personnes différentes. Pour chaque pièce, on avait trouvé quelqu'un pour qui c'était leur langue maternelle pour nous enregistrer le texte. Donc, voilà, par exemple, pour le lituanien, mon collègue Rolandas Mileika.
Oui, lui, il était tout trouvé. Là, ça va.
On a trouvé quelqu'un pour chaque langue.
Oui, oui, parce que, en plus, avec de jeunes chanteurs, ça ne doit pas être évident, enfin, j'imagine.
Bon, au contraire.
Peut-être que ça va plus vite.
Ça va beaucoup plus vite avec les jeunes.
Ils intègrent plus vite que pour des adultes.
Ils sont plus vite que moi pour tout ce qui est.
Ils sont encore à un âge où ils sont plus ouverts.
Pour les langues, oui, les jeunes sont plus vite.
Est-ce qu'il y a des compositeurs un peu connus quand même dessus, connus grand public, je veux dire, hein?
Alors, ça dépend. Ils sont sûrement connus dans leur pays plus, mais par exemple, Augustinas pour le compositeur lituanien, Busto pour la pièce espagnole. Mais la plupart, ce n'est pas des grands noms de compositeurs,
ouais,
non.
Ouais.
C'est des gens qui sont surtout spécialistes d'arrangement.
Voici un extrait de ce CD Folk Songs Tour du Monde, une pièce du compositeur basque espagnol Javier Busto, que j'ai cité plus tôt et dont vous venez de parler à l'instant. Elle a pour titre Agur Yaonak. Agur Yaonak, un magnifique chant composé par Javier Busto que l'on trouve donc sur le CD Folk Songs Tour du Monde enregistré par la Maîtrise de Toulouse et récemment paru sous le label Anima Nostra, un disque que vous pouvez vous procurer sur le site internet de la Maîtrise. On arrive au concert de Noël que vous donnez vendredi à la Basilique Saint-Sernin. Comment avez-vous conçu le programme cette année, Marc, et avec quel chant de Noël? Là aussi, c'est un peu international.
Oui, alors le concert de Noël, je pense que c'est notre 19e concert de Noël traditionnel. C'est le concert où on a l'habitude de quand même reprendre certaines pièces chaque année parce que tout le monde aime bien ça pour Noël, des traditions. Et aussi, j'essaie d'intégrer des chants aussi de l'avant et allant de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Donc ça commence avec le chant grégorien Veni, Veni, Emmanuel. On a ensuite Michel Bouvard qui va jouer une très grande pièce pour orgue, ou très longue pièce, de Ducos Roi, des variations sur une jeune pucelle. Et donc là, le chœur chante le thème entre chaque variation. Après, il y a la partie Renaissance avec Palestrina, Canite Tuba, Shait, puis un Artus in Bethlehem. Ensuite, Michel va jouer l'andante de la symphonie gothique de Vidor. Et après, on passe dans une partie un peu plus moderne, commençant avec Berlioz, l'adieu des bergers et plusieurs pièces des compositeurs anglophones, en tout cas, du XXe siècle. Et après, la dernière partie, c'est des Noël occitans. On revient sur ce même thème.
Oui.
Et là, c'est des arrangements que j'ai faits qui étaient en fait une commande de Christophe Gibert et son chœur de chambre.
Dulci
Jubilo. Donc là, c'est plusieurs chants occitans.
Je les ai sous les yeux, là. L'Oyove Pastré, ça vient du Rouergue, apparemment.
Oui.
Evat Evite, Bertomieu, Hérault, ça c'est vient de l'Hérault. El Noy de la Marée, mais ça c'est un.
Ça c'est en catalan.
C'est catalan.
C'est catalan, mais c'est chanté dans la partie française.
D'accord.
Donc roussillonnais aussi.
Oui, parce qu'on ne connaît pas l'auteur, je crois, à la base de ce.
Bon, c'est revenant au même thème, c'est la musique folklorique.
Ouais, en fait. Voilà, donc c'est anonyme. En français, hein, El Noy de la Marée, c'est l'enfant de la mer. Mer, M-E, accent grave, R-E. Et puis Carillon de Noël, Rouergue et. Anan Ausi Las Aubados. Et ça, c'est toulousain.
Tout à fait. Moi, je pense que c'est un chant occitan qui. Vous pouvez être n'importe où en Occitanie, on va dire que c'est de chez.
Je pense que
c'est local, en tout
les
cas.
Gens les gens du cru le connaissent forcément.
Oui, en tout cas, c'est connu à tous.
Alors, il y a une chose qu'on m'a dit, c'est que, bon, là, vous avez arrangé, bien sûr, mais vous composez, je crois aussi.
Oui, je compose, surtout pour chœur et surtout.
On m'a dit que vous composez très bien, mais pas assez. Que vous devriez composer plus. On peut pas tout faire.
Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est gentil. C'est sûr que c'est quelque chose que j'adore faire. C'est surtout une question de trouver le temps.
Et oui.
Mais c'est sûr que quand quelqu'un me fait des commandes, ça c'est bien parce que ça me force à.
Et voilà, oui, il faut bien rendre le travail qu'on vous a commandé. Oui.
Et par exemple là, je me suis vraiment rendu compte à quel point il y a une vaste répertoire de tous ces chants de Noël occitan, des mélodies, c'est absolument vaste tout ce qu'il y a à arranger.
Je pense qu'il y a beaucoup à faire.
Voilà,
et même
c'est des mélodies magnifiques.
À faire revivre. Quoi,
tout à fait. Et là, ces mélodies sont vraiment très, très beaux.
Et ce sont souvent les Anglais, les Anglais et les Anglo-Saxons qui ressuscitent le répertoire occitan. J'ai déjà remarqué ça.
Ah, oui.
Qui les passionne complètement. Nous allons maintenant écouter la maîtrise de Toulouse chanter un des airs au programme de son concert de Noël à la Basilique Saint-Sernin. Et c'est justement Anan Ausi Las Aubados dans l'arrangement que vous avez réalisé, Marc Hofstadt. Anan Ausi Las Aubados, l'un des chants au programme du concert de Noël de la Maîtrise de Toulouse, à la Basilique Saint-Sernin ce vendredi 20 décembre à 20h. Il y a deux autres concerts à vous annoncer cette semaine. Et tout d'abord celui de l'Orchestre National du Capitole, j'en ai parlé en début d'émission, jeudi 19 décembre à 20h, la Halle au Grain. Et devinez qui va le diriger, ben, je l'ai déjà annoncé, c'est Tougan Sokiev, qui était venu il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines, pour diriger l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ouais. Et le revoici à la tête de ce qui fut très longtemps son orchestre, l'Orchestre du Capitole, Serge, avec un programme Tchaïkovski.
Ah oui, là, il est vraiment intégralement Tchaïkovski, vraiment destiné à cette fin d'année, puisqu'il donnera deux suites d'orchestre des deux plus grands ballets, des ballets les plus souvent donnés de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, donc, et puis Casse-Noisette, le ballet traditionnel des fins d'année, hein, Casse-Noisette.
Oui, c'est du classique en ce temps de Noël, et puis surtout, c'est du sur-mesure pour Tougan Sokiev.
Ah, tout à fait, c'est dans son ADN, là, effectivement.
Alors, je me demandais s'il restait des places, je vous l'annonce, mais j'ai dans l'idée qu'il ne doit pas être loin d'être complet, donc dépêchez-vous si vous voulez assister à ce concert. Oui. C'est dans deux jours. Voici un petit extrait du Lac des Cygnes avec la danse des petits cygnes dans une version concert de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tougan Sokiev. La danse des petits cygnes, extrait du Lac des Cygnes, une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée par Tougan Sokiev, datant d'il y a quelques années. Tougan Sokiev dirige donc également l'Orchestre du Capitole ce jeudi 19 décembre à 20h à la Halle au Grain pour un concert dédié à Tchaïkovski avec des extraits du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette. Et le lendemain, encore à la Halle au Grain, vendredi 20 décembre à 20h, nouveau concert du cycle des grands interprètes qui a invité, et ce n'est pas la première fois, une légende du piano mondial, Martha Argerich. Finalement, elle ne va pas jouer avec son ami, le violoncelliste Misha Maïski, ce qu'on savait déjà depuis quelques temps, mais elle vient tout de même en bonne compagnie, Serge.
Ah oui, absolument. Donc, Misha Maïski a dû abandonner pour raison de santé. Et donc, elle vient avec quatre musiciens supplémentaires, avec tout d'abord le violoniste issu d'Albanie qui s'appelle Teddy Papavrami, violoniste déjà connu, qui a une grande réputation. Et puis, la jeune chinoise Ying Zhao, qui est violoncelliste, donc. Et puis ensuite, une autre pianiste, Akane Sakai, qui est japonaise. Et enfin, encore un pianiste, donc il y aura trois pianistes ce soir-là. Ido Zeef, qui est israélien, un jeune israélien de 25 ans, qui vient de faire ses débuts. Voilà, c'est un concert de musique de chambre avec une série d'œuvres, notamment deux œuvres de Prokofiev, avec d'abord une transcription pour deux pianos de la symphonie classique, avec Martha Argerich et Akane Sakai, puis une sonate pour violon et piano, également la deuxième de Prokofiev, avec Martha Argerich et Teddy Papavrami, puis la deuxième sonate de Scriabine, là il n'est pas indiqué.
Et oui, alors je ne sais pas qui va. Non. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que ce ne sera pas Martha Argerich, parce qu'elle ne joue plus seule à ma connaissance.
Hein. Oui, mais là, comme elle est accompagnée...
Vous pensez qu'elle va faire une exception?
Mais écoutez...
C'est vrai, ce n'est pas précisé, donc on peut se demander si ce n'est pas elle, effectivement. Ou alors, bon, il y a deux autres pianistes.
Hein, et oui, donc le choix est large.
Tout ce qu'on
et
veut.
Et puis ensuite, Zigane de Maurice Ravel, dans une transcription pour piano de son interprète, le jeune Ido Zeev, et le concert s'achèvera avec le trio pour piano, violon et violoncelle numéro 1 de Mendelssohn, avec Martha Argerich, Xing Zhao et Teddy Papavrami. Donc, de la musique de chambre au plus haut niveau, hein, certainement. Quand on connaît Martha Argerich, on sait que... on ne sera pas déçu.
Elle a déjà joué avec Teddy Papavrami en concert, confirmer. Avec les trois autres, je ne sais pas. Mais elle aime beaucoup se produire avec de jeunes musiciens qu'elle prend un peu sous son aile. Hein.
Exactement. Donc,
je pense qu'ils font partie de sa petite bande de jeunes. Là. Et puis bon, je le répète, hein, depuis déjà des années, elle ne joue plus en solo.
Non.
Elle vient ou à quatre mains, ou avec un violoniste, un violoncelliste, ou avec plusieurs musiciens, ou un orchestre.
Ou avec orchestre.
Mais elle ne donne plus de récital.
Non. Il y a très longtemps. Hein.
Oui, alors je ne sais pas quelles en sont les raisons. Je crois qu'elle ne veut plus affronter le public seule maintenant.
Voilà,
elle n'a plus envie de s'infliger ça, si on peut dire. Mais elle aime toujours autant jouer. Elle a 83 ans, 84 l'an prochain. Donc voilà,
oui.
Hein, et toujours une forme extraordinaire.
Ah oui, oui.
Et une forme musicale, évidemment, qui lui permet de se produire régulièrement. Dernier extrait dans cette émission pour illustrer le programme de ce concert, le début de la sonate pour violon et piano numéro 2 de Prokofiev, jouée par Martha Argerich et Teddy Papavrami. Le début de la sonate pour violon et piano numéro 2 de Prokofiev, jouée par Martha Argerich et Teddy Papavrami. Elle est au programme du concert qu'il donne avec la violoncelliste Xing Zhao et les pianistes Akan Sakai et Ido Zeev, vendredi 20 décembre à 20h à la Halle aux Grains. Billetterie en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Jeudi 19 décembre à 20h également à la Halle aux Grains, concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Pour un programme d'extraits du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette, les célèbres ballets de Tchaïkovski, vous pouvez acheter et réserver vos places à l'adresse www.onct.toulouse.fr. D'autre part, les amateurs de danse peuvent noter que le spectacle Magie Balanchine, suite de trois ballets sur des musiques de Tchaïkovski et Gershwin, est donné au Théâtre du Capitole du 20 au 31 décembre lors de 8 représentations avec l'Orchestre du Capitole dans la fosse. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Et enfin, si vous voulez assister au concert de Noël de la Maîtrise de Toulouse, ce même vendredi 20 décembre à 20h à la Basilique Saint-Sernin, Je vous invite à vous connecter au site www.maîtrisedetoulouse.fr, adresse à laquelle vous pouvez aussi vous procurer le CD Folk Song Tour du Monde, paru sous le label Anima Nostra. Tous mes remerciements à Serge Ozi et Marc Hofstadt, les deux invités de cette émission. Merci également à Christophe Aubry, qui l'a réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous écoutent fidèlement à chaque numéro. Joyeux Noël et bonne fête en famille. Excellente semaine musicale à tous.